Aujourd'hui, le quatrième mur vous propose un aller simple pour des destinations lointaines et envoûtantes. Pour ce voyage, pas besoin de passeport, simplement de tendre l'oreille et d'écouter les mélodies de notre invité. Naïssam Jalal, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es flûtiste, tu joues de la flûte traversière, tu fais partie de nombreux groupes à géométrie variable, serais-je tenté de dire. Tu commences à avoir une belle petite carrière avec pas mal de projets, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour commencer peut-être par le commencement, à quel âge est-ce que tu as commencé la musique et dans un second temps, à quel moment finalement tu as su qu'elle tiendrait une place aussi importante dans ta vie?
J'ai commencé la flûte traversière à 6 ans. Au conservatoire et j'ai suivi le cursus classique de musique classique au conservatoire avec les cours de solfège, d'instruments et de pratique collective. Et à 17 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Michel Touzeau, qui est contrebassiste, par hasard dans une soirée, dans un vernissage où je jouais des pièces pour flûte seule. Et lui, il jouait de la contrebasse et en fait, il faisait une performance où il improvisait en relation avec les œuvres. Donc, rien à voir avec la musique classique. Et il est venu me voir à la fin de sa performance et il me dit « Ah, mais t'as un joli son, viens, on improvise. » Et moi, j'avais 17 ans, j'avais jamais joué autre chose que ce qui était écrit sur les partitions. Et donc, c'est la première fois que j'ai improvisé. Et en fait, ça m'a fait un bien fou et j'ai décidé de devenir musicienne à ce moment-là.
Et en fait, ce qui était intéressant pour toi, justement, c'était de... Alors, j'allais parler de carcan, le terme est peut-être un peu fort, mais quand on est au conservatoire, finalement, l'improvisation et de tenter d'autres choses, c'est pas quelque chose auquel on est forcément encouragé.
Alors, aujourd'hui, il y a certains conservatoires où les choses changent. Mais à l'époque où moi, j'étais au conservatoire, pas du tout. Mais c'est pas parce que... Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup voulu à mes profs au début... de m'avoir caché ça.
Que ça existait, tout simplement.
Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Ouais. Tu vois, eux-mêmes, ils sont pas passés par ça, ils n'ont pas eu cette expérience, ils n'ont pas traversé cette expérience-là, ils ne l'ont pas vécue. Et ils n'ont jamais peut-être ressenti le besoin aussi de s'émanciper de ce qu'ils avaient appris et tout ça. Donc, si tu veux, eux, ils m'ont transmis avec beaucoup de générosité ce qu'eux, ils savaient faire. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'ils sont méchants.
C'est pas du mauvais esprit.
C'est parce qu'ils savaient pas.
Il y avait une certaine forme de tradition aussi qui se perpétuait dans les conservatoires.
Il y a une tradition, il y a une esthétique. Et puis, il y a... Si tu veux, le problème, je pense, dans le milieu de la musique classique, c'est qu'on pense qu'on est l'élite, comme dans beaucoup de milieux. En fait, tout le monde pense qu'il est l'élite et qu'il déchire tout et que les autres, c'est de la merde. Et en fait, au final, tu te rends compte que maintenant, en fait, il y a plein de choses que tu ne sais pas faire. Il y a plein de choses que tu fais mieux que d'autres, peut-être. Tu vois, lire à vue une partition, c'est sûr qu'il n'y a personne de mieux placé que les musiciens classiques pour le faire. Mais est-ce que la musique, ça rentre vraiment par les yeux? Ou est-ce que ça rentre pas plutôt par les oreilles, tu vois?
Ouais.
Et donc, quand tu apprends un enfant à lire, la musique, c'est bien. Mais ce qui, à mon sens, est encore plus important, c'est de lui apprendre à entendre, à écouter. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup, en tout cas qui manquait beaucoup à l'enseignement de la musique classique au conservatoire. Aujourd'hui, je me retrouve, pas régulièrement, mais ça m'arrive, en tout cas, d'être invitée par des professeurs de musique classique à faire des interventions dans les conservatoires pour initier les élèves à l'improvisation et pour justement leur donner des outils pour s'émanciper un peu de l'écriture, de la lecture, de, tu vois, de cette forme de pratique musicale qui est juste de l'interprétation, en fait, où il y a une part de créativité parce que tu interprètes plus ou moins personnellement, mais c'est pas pareil que d'improviser ce que tu as dans ton cœur, tu vois.
C'est, toi aussi, tu les incites à ça, c'est-à-dire que c'est aussi une certaine forme de curiosité que tu peux leur transmettre aussi.
Oui, alors il y a la curiosité et puis il y a aussi... pour moi, l'improvisation, il y a quelque chose de très spirituel parce que si tu es vraiment sincère, si tu n'es pas en train de... Parce qu'il y a aussi des gens qui... En fait, il y a des gens qui improvisent. Quand ils improvisent, en fait, ils répètent des phrases qu'ils ont apprises aussi, tu vois. Donc, mais quand tu es vraiment sincère... Bon, de toute façon, on n'invente rien. On est toujours en train de refaire à sa sauce des choses qui existent déjà. On s'approprie, en fait. On se réapproprie des choses qui existent. Mais, Mais quand tu le fais vraiment avec ton cœur, c'est une forme de spiritualité, une forme de méditation, la musique, l'improvisation en tout cas. Parce que du coup, tu essayes de te connecter à la part hyper intime de ton être et d'exprimer ce que tu as besoin d'exprimer. Mmh. Et en fait, je pense que c'est là où il y a une expérience spirituelle hyper puissante, en fait. Et moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en faisant ces ateliers-là, d'avoir des jeunes ou des moins jeunes qui jouent d'un instrument depuis très longtemps, qui se mettent à pleurer parce qu'en fait, ça les bouleverse de pouvoir exprimer des choses comme ça en musique.
C'est quelque chose qui peut être presque transcendant, en fait, puisqu'on va puiser en soi. Donc toi, tu parlais d'émancipation, tu parlais de cette improvisation. Il me semble qu'un des premiers, je sais pas comment faut le dire, un des premiers groupes pour lesquels tu avais joué, c'était Taras Bulba, c'est bien ça?
Oui. Je suis rentrée dans Taras Bulba à 17 ans, juste après cette expérience de l'impro.
Okay.
Donc c'est un groupe d'amateurs, hein, principalement, c'est une fanfare funk. Et c'était les premières expériences de musicienne dans les tourbus, fanfares, les marchings dans la rue.
Ça se voit pas parce qu'on est à la radio, mais tu racontes ça avec le sourire. Pour toi, c'est une période particulière ou c'est aussi parce que tu as découvert plein de choses et c'était nouveau par rapport à tout ce que tu avais vécu avant?
Bah avant, j'avais rien vécu. J'avais 17 ans, j'avais été à l'école. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'avais... Et là, tout de suite, je me retrouvais avec que des gros cassos, Baba.
Ça avait été formé par deux anciens des Négresses Vertes, il me semble.
Ouais.
C'était ça, Taras Bulba.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Enfin, Disons que c'est une école de musique, mais sans être une école de musique, tu vois. Donc,
une école buissonnière de musique.
Voilà, c'est une école buissonnière, exactement. C'est une école buissonnière de la musique. Et du coup, c'est vrai qu'on partait en tournée. Enfin voilà, c'était à la fois une expérience musicale et humaine très 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 belle et très enrichissante.
Et comme je le disais, on y reviendra plus tard. Ensuite, tu as formé plusieurs formations, des quintettes, des groupes de différentes tailles. Est-ce que c'est finalement lors de cette première expérience que tu t'es dit aussi que l'énergie du groupe, la synergie que ça pouvait représenter, c'est quelque chose qui t'intéressait plutôt que d'être flûtiste soliste ou de faire des choses plus toute seule?
Non, ça c'est pas ça qui me l'a dit, parce que je sais depuis que je suis toute petite que j'aime pas être toute seule. Donc tu vois, moi je viens d'une famille de peintres. Mes parents ils étaient peintres, donc ils passaient des heures tout seuls dans leur atelier. Moi, j'ai toujours su que moi, ce n'était pas mon délire d'être toute seule avec une toile. Non, moi, mon délire, c'était d'être avec des gens. Et non, moi, avant de vouloir devenir musicienne, je voulais plutôt... Enfin, je rêvais de changer le monde, en fait. Je voulais faire de la politique, ouais. Tu vois. Je n'avais pas prévu d'être musicienne. Et c'est vraiment cette expérience de l'improvisation qui m'a révélé l'importance que la musique, elle avait pour moi dans ma vie. Et ça, c'était hyper fort. Et après, j'ai monté un quintet avec lequel j'ai sorti 3 albums, Rhythms of Resistance. Mm-hmm. Donc le premier album, Ousloub Hayati, en 2015. Al-Motwal Al-Mazalla, en hommage aux martyrs de la révolution syrienne, en 2016. Et Un autre monde, en 2021. J'ai fondé aussi un groupe de hip-hop avec un rappeur palestinien qui s'appelle Ousloub. Un groupe qui s'appelait Al-Akhalin, les autres. Et bon, c'est un groupe qui n'existe plus, mais qui a quand même... avec lequel on a sorti un album qui était assez beau. Et puis, j'ai monté un trio qui s'appelle Quest of the Invisible, avec lequel je tourne toujours.
D'accord.
Et qui est un trio qui me tient à cœur. Et là, j'ai un nouvel album qui sort à la fin du mois, avec un nouveau quartet que j'ai fondé aussi.
D'accord.
Qui s'appelle Healing Rituals.
OK.
Et où, en fait, le répertoire, c'est des rituels de guérison imaginaire.
D'accord. En quoi ça consiste exactement?
Et bien, en fait, donc moi, j'ai été en 2013 hyper malade. J'ai été à l'hôpital. J'ai passé plusieurs semaines hospitalisée et paralysée. Mmh. Et j'ai un ami musicien qui est venu jouer de la musique dans ma chambre. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait.
La musicothérapie?
Bah, c'était pas, parce que lui, il n'est pas musicothérapeute, tu vois. Mais la musique, je pense que... Tu vois, moi, la première fois où j'ai joué, où j'ai l'impression d'exprimer des choses que j'arrivais pas à dire avec des mots depuis toujours, enfin, tu vois, cette espèce de sensation de libération, c'était déjà hyper thérapeutique. Tu vois, je pense que la musique, en fait, elle est de fait hyper thérapeutique parce qu'elle va soulager des angoisses, parce qu'elle va te permettre d'exprimer des choses qui te font du mal, des peurs... des blessures, tu vois.
Ce que ça peut avoir de cathartique dans la, ouais, la pratique de la musique.
À fond. Et donc, là, c'est vrai qu'il y a quelques années, on m'a proposé d'aller jouer à l'hôpital. Et j'étais très heureuse de le faire parce que je me suis dit que je pouvais rendre un peu à d'autres ce que j'avais eu, moi, la chance de recevoir. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir des copains musiciens, tu vois.
C'est vrai.
Et donc, du coup, j'ai été jouer à l'hôpital et puis j'ai joué dans les chambres des patients. Donc, j'ai joué en oncologie, j'ai joué en soins palliatifs, donc dans les chambres de gens à qui on avait annoncé qu'ils allaient mourir. Ce que je trouve toujours assez étonnant, puisqu'on n'est pas censé savoir quand est-ce qu'on va mourir, tu vois. Enfin, je trouve ça vachement arrogant de croire qu'on sait quand est-ce que l'autre va mourir. Il y a quand même plein de gens à qui on a annoncé qu'ils allaient mourir et qui sont restés en vie encore 10 ans, tu
c'est
vois.
C'est vrai, oui,
donc,
qui ont déjà les pronostics.
Je trouve ça toujours assez étonnant qu'on puisse se permettre de dire ça à un être humain, mais bon. Voilà, et du coup, j'ai fait ces expériences-là. J'ai joué aussi dans des centres de rééducation où là, c'était vraiment différent parce que les gens n'allaient pas vers la mort. En fait, là, les gens avaient traversé la mort et ils revenaient à la vie. Tu sais, donc, c'est des gens qui ont eu des gros accidents,
d'accord,
qui ont été paralysés, qui ont... Tu vois, voilà. Donc, c'est une autre démarche et une autre énergie aussi quand tu vas jouer pour ces gens-là. Ce n'est pas du tout la même, même vibe. Et puis, petit à petit, ces rituels de guérison, ils sont apparus comme un peu une nécessité pour moi, comme une étape dans mon processus musical, dans mon chemin musical, tu vois.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup bossé dans le trio Quest of the Invisible, justement, sur le rapport au silence, le rapport au vide,
mm-hmm,
le rapport à la transe, le rapport à la spiritualité. Et du coup, le rapport à la guérison, c'était un peu la suite logique de tout ça. Et voilà, et donc j'ai inventé ces rituels qui s'inspirent de plein de musiques de guérison extra-occidentaux, comme le Zal ou comme le Gnawa, ou qui s'inspirent aussi de la musique hindoustani, enfin de plein de choses. Et voilà, c'est des rituels qui sont en lien avec les éléments de la nature, où j'ai essayé à chaque fois de retranscrire en musique l'énergie bienfaisante d'un élément.
D'accord.
Tu vois, où je me suis dit, bon. Je me remets dans mon corps en souffrance, tu vois, mentalement, je me remets dans cette...
Tu te projettes, oui.
Je me projette et je me dis, bah, de quoi j'ai besoin. Et là, je vois la rivière, tu vois,
mm-hmm,
et je vois l'énergie. Et tu as la rivière, tu as le ruisseau, tu as le torrent, tu as le courant, tu as le fleuve paisible, enfin, tu as toutes ces images d'eau.
Bien sûr, ouais.
Qui te viennent à l'esprit et tu te rends compte à quel point cette énergie-là, elle te fait du bien. Et donc, du coup, bah, par exemple, il y a le rituel de la rivière.
D'accord.
Il y a le rituel de la terre, il y a le rituel du soleil, le rituel de la lune, le rituel du vent, le rituel de la brume. Donc, voilà, il y a 8 rituels.
Tout ce qui peut, comme tu disais, des rituels de guérison, tout ce qui peut t'aider à guérir et à panser certaines plaies, en fait.
Oui, exactement.
Et alors, justement, tu disais les différents groupes, les différents projets que tu as créés. À chaque fois, tu étais très bien entouré. Justement, on y croise plusieurs références, puisque tu parlais du classique dont tu es parti. Et il y a sur certains de tes projets, on croise, tu disais, tu as bossé avec des rappeurs, on croise des sonorités funk, jazz. Tout ça, finalement, c'est aussi l'expression de tes influences, de tes rencontres. À quel moment est-ce que tu sais que tel projet prendra une coloration ou une destination plus qu'une autre?
C'est une très bonne question.
Merci.
Ça dépend des projets, je pense.
Ouais.
Tu vois, le quintet.
Rhythms of Resistance.
Rhythms of Resistance, c'était mon premier groupe, c'était ma première formation en tant que leader.
Mmh.
Et en fait, j'avais plein de musique sur du papier. J'avais plein d'idées de morceaux, j'avais plein d'histoires que j'avais racontées en musique. Et quand je les avais, quand elles étaient sorties, quand je les avais composées, c'était un jaillissement parce que j'avais besoin de les dire à ce moment-là.
Mmh.
J'avais pas prévu, tu vois. C'était un truc, c'était hyper spontané, c'était ouais, vraiment de la musique. Je pouvais la jouer avec n'importe qui, en fait.
Il fallait que ça sorte.
Il fallait que ça sorte.
Ouais.
Et ensuite, au hasard des rencontres et du chemin et des jam sessions et tout ça, j'ai décidé de former un groupe avec un batteur, un contrebassiste, un saxophoniste, un guitariste. Voilà. Donc, et du coup, ça a pris forme. Et du coup, on a joué ce répertoire, le premier album,
mm-hmm,
comme ça. Mais je n'avais pas prévu de jouer cette musique-là. tu vois. Et en fait, après, le groupe, quand il a pris forme, eh ben, il a eu une couleur particulière, il a eu une identité sonore, une couleur, quoi. Mm-hmm. Et après, les morceaux que j'ai composés pour le deuxième ou le troisième album, là, clairement, j'avais cette couleur en tête. Et quand je composais pour ce groupe.
D'accord.
Tu vois ? Ce qui n'était pas le cas du premier album, par exemple.
Le cheminement, finalement, créatif se faisait différemment.
Voilà. Et alors, pour le dernier album du quintet, Rhythms of Resistance, donc Un autre monde. Un autre monde, en fait, c'était... Moi, j'avais envie d'écrire un troisième album, un troisième répertoire pour le quintet. Parce que ça faisait plusieurs années qu'on jouait l'ancien répertoire et que j'avais envie de changer un petit peu le répertoire. Et à ce moment-là, il y a un gars qui s'appelle Xavier Lejeune, qui est directeur du théâtre de Guidel Lestran, qui s'appelle Lestran, et qui m'a dit, j'aimerais bien t'accueillir en tant qu'artiste associé, je voudrais que t'écrives pour un grand ensemble. Je lui dis, alors grand comment ? Et il me dit, symphonique.
Donc, tu passes du quintet à un orchestre symphonique.
Voilà. D'accord. Et donc, moi, j'étais...
un orchestre symphonique, c'est combien de musiciens à peu près ?
Alors, ça dépend. Bah, un vrai symphonique, c'est 100, une centaine de musiciens.
D'accord.
Là, on était plutôt sur un quart de symphonique. D'accord. J'ai demandé exprès. Donc, tu as le même nombre de pupitres, si tu veux. Tu as le même nombre de voix à écrire, entre guillemets. Mais par contre, tu as moins de gens qui les jouent.
Oui, d'accord.
Parce qu'en fait, plus tu as de monde et plus il y a d'inertie. Et comme moi, j'ai écrit un répertoire hyper rythmique, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un 100 musiciens sur scène, sinon c'était l'enfer, ça serait tout le temps en retard, tu vois.
Ouais, j'imagine.
Donc,
oui, parce que c'est vrai que quand tu as les orchestres symphoniques, c'est aussi une logistique derrière, que ce soit à résidence ou en tournée, c'est un bataillon entier, en fait.
Voilà. Et ça, c'était l'autre truc. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, je suis hyper honorée, j'ai vachement envie de relever le défi, parce que c'est quand même un défi. Tout le monde autour de moi m'a dit, mais Naïssa, fais appel à un arrangeur, tu ne pourras jamais écrire pour un orchestre symphonique. Et j'avoue que ça m'a un peu vexée. Je me suis dit, mais
ça
pourquoi pourquoi je ne pourrais pas écrire pour un orchestre symphonique ? Bien sûr que si. Et donc, j'ai écrit tous les arrangements pour l'orchestre symphonique. Mais ce qui était beau, en fait, à ce moment-là, c'est que j'écrivais pour le quintet et pour l'orchestre symphonique. Mm-hmm. Donc, en fait, le répertoire, il devait être joué par les deux ensembles.
D'accord.
Parce que, comme, effectivement, c'est toute une logistique et que je ne voulais pas passer 3 ans de ma vie à écrire un répertoire qui allait être joué 5 fois, parce que je ne pouvais pas me payer un orchestre symphonique à chaque fois que je fais un concert. Du coup, j'ai voulu que ça soit... possible de le jouer aussi bien en quintette qu'avec l'orchestre symphonique.
Donc de faire finalement des versions de l'œuvre qui cohabitent ou même qui sont complémentaires. Quand on les écoute, elles peuvent être complémentaires.
Voilà. Et ce qui était hyper dur, je trouve, ce qui a rajouté une difficulté aussi, c'est que donc j'écrivais en même temps et les versions nourrissaient l'une l'autre, tu vois, se nourrissaient l'une l'autre. Et en fait, ce que je voulais, c'est que quand on joue en quintette, on n'ait pas l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à la version symphonique.
Ou que ça fasse, dire méchamment cheap, ou qu'on se dise ah c'est pas mal, mais on dirait une version un peu
réduite.
Voilà.
Et en même temps, je voulais pas que la version symphonique fasse gros bordel de ouf, parce que genre tout de suite t'as
musique de stade.
T'as dix voix en plus, quoi, tu vois. Mmh.
Donc finalement, t'as presque, c'est une œuvre deux en une, mais t'as presque écrit comme si c'était deux œuvres totalement différentes.
Non, parce que c'est les mêmes thèmes. Mais ce n'est pas du tout les mêmes arrangements. D'accord. Et en fait, les arrangements de l'un venaient nourrir ceux de l'autre. Enfin, c'était vraiment un truc parallèle. Parfois, sur une version, j'avançais sur la version quintette et ensuite, j'allais vers la version symphonique. Mm-hmm. Parfois, au contraire, c'est la version symphonique que je commençais et qui ensuite allait nourrir...
Elles se guidaient l'une l'autre, finalement. C'est-à-dire que peut-être que quand tu te consacrais davantage à l'une, l'autre te revenait en tête.
Voilà, exactement. Et donc, ça a été un gros travail d'écriture pendant 3 ans qui a donné ensuite naissance à ce projet-là, Un autre monde, avec lequel on a pas mal tourné. Bon, après, il y a eu le Covid. Donc
c'est ça que j'allais dire. C'était un peu le Deus Ex Machina. C'est une œuvre qui... Parce que quand on parle d'orchestre symphonique, c'est quand même beaucoup fait pour être... ça prend son sens sur scène. D'autant que toi, tu tournes également beaucoup. On y reviendra. Vous avez pu le présenter sur un certain nombre de dates dans des conditions réussies ?
Ouais. On a eu vraiment beaucoup de chance. Parce qu'alors déjà... Donc moi, j'avais fait appel à Zaria Ziwani, qui est une chef d'orchestre. extrêmement talentueuse. Et donc, je lui avais demandé de diriger la symphonie. Et on a fait la création avec l'Orchestre National de Bretagne, puisque au départ, la résidence est en Bretagne et tout ça. Mmh. Et donc, on a fait une dizaine de dates quand même avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Donc, pour te dire, parmi les créations qu'eux, ils font, c'est une des créations qui a le plus tourné. Donc, on a eu vachement de chance, en fait. Il y a eu beaucoup d'engouement pour cette création-là.
D'accord.
Et ensuite, donc Zaria, elle a eu envie de monter cette œuvre avec son propre orchestre.
D'accord.
Et donc, on a fait avec son orchestre aussi une dizaine de dates.
Ça, donc, c'était davantage en région parisienne ?
Non, non, on a tourné même à Grenoble.
D'accord.
Il y a, je crois, peut-être encore en ligne, une captation qu'on a fait en mars dernier à Grenoble, à la scène nationale de Grenoble. Une captation de toute la symphonie en entier.
Ok.
Voilà. Mais ça, c'était assez fou parce que c'est vrai que des créations comme ça avec un orchestre symphonique faire 20 dates, c'est hyper rare.
Mmh.
C'est hyper rare. C'est vraiment, on a eu beaucoup beaucoup de chance. Et par ailleurs, c'est vrai qu'avec le quintet, on l'a beaucoup joué, tu vois.
Mmh.
On a dû faire au moins une trentaine de dates avec le quintet.
D'accord. Et justement, tu parlais de certains projets que tu as fait, notamment d'un des projets avec un rappeur. En termes de processus créatif, j'imagine que ça se fait différemment parce que il y a beaucoup de rappeurs qui partent finalement du texte, puisque dans le rap, le texte et la façon de le dire, le flow sont très importants. Là, quand tu travailles avec un artiste qui est rappeur, ça se passe comment ? Ça se passe différemment ?
Bah déjà, alors avec Ousloub, en plus, c'est un peu particulier parce que lui, il n'est pas juste rappeur, il est aussi producteur de hip-hop, donc
D'accord.
il fait des instrus, donc il est musicien aussi. Donc en fait, on faisait les instrus ensemble.
Okay.
Et après, on discutait un peu des sujets dont on avait envie de parler et c'est lui qui écrivait les textes. C'est comme ça que ça se passait, en fait, tu vois. Mais bon, après, avec Ousloub, c'était un peu particulier parce que c'était vraiment un projet où on était co-leader, tu vois. C'était pas juste moi qui écrivais, c'était lui aussi.
D'accord.
Voilà.
Et d'ailleurs, tu disais, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu voulais changer le monde. Et j'avais lu une interview de toi où tu disais que tu étais convaincu que les frontières n'ont pas de légitimité, que ce soit sur terre ou en musique. Donc finalement, à ton propre échelon, c'est un petit peu ce que tu fais via la musique.
À fond.
De changer le monde.
En tout cas,
d'essayer.
En tout cas, de sauter allègrement au-dessus des frontières, ouais.
Et donc, c'est finalement, quand toi, tu fais de la musique, ça passe aussi par là, c'est-à-dire d'aller chercher des sonorités, des influences auxquelles tu n'avais pas pensé, des choses très différentes.
En fait, je ne cherche pas.
C'est elle qui te trouve.
Ouais, parce qu'on a la chance, je trouve, en France, d'être très mélangés, en fait. Il y a plein de gens qui... Enfin, en tout cas, à Paris. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis fille d'immigrés. C'est vrai que j'ai toujours été dans des cercles... hyper
cosmopolite.
Ouais, cosmopolite, tu vois, et du coup c'est moi je trouve ça hyper beau, hyper enrichissant. Je pense que tu vois, si on était tous pareils, ben on se ferait chier à mourir. Il y a qu'à voir les villages où ils sont consanguins, laisse tomber, ils ont des têtes de pommes de terre. Donc non moi je pense que c'est super de d'avoir cette chance là en fait, c'est hyper enrichissant. Et moi c'est vrai que au départ, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que en tant que fille d'immigrée, en tant que fille d'arabe qui porte cette arabité dans mon corps et sur mon visage, j'ai pas eu le choix d'être française, j'ai envie de dire. Tu vois, je suis née à Paris. Bon, j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi en banlieue, mais je suis née à Paris. Ma première langue, c'était le français. Tu vois, moi, je me suis jamais dit, je suis pas française, en fait. Mais le regard des autres, il m'a dit que j'étais pas que française, tu vois. Parce qu'on a un problème, en fait, je pense, un gros, gros problème en France dans notre façon d'envisager l'identité. C'est que soit tu es juste français, soit tu l'es pas complètement. Tu vois ?
Bien sûr.
Et ça, c'est horrible.
Bien sûr. Parce que pour toi, la question se posait même pas, en fait.
Bah pour moi, la question... C'est comme si tu vas voir un plant de tomate, tu lui dis « Ah, mais toi, t'es pas un plant de tomate français, parce que, en fait, tes origines, c'est en Amérique latine. » Mais lui, il s'en fout. Il a grandi dans l'Oise, tu sûr. Vois, ou il a grandi en Seine-Saint-Denis, ou il a grandi en Seine-et-Marne. Le plant de tomate, il s'en fout, tu vois.
C'est finalement l'altérité, elle est davantage dans le regard des autres.
Ah bah, évidemment. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Tu vois... Bah oui, oui, enfin, il est complètement, quoi. C'est pas... Moi, c'est pour ça que ça me fait vachement rire, en fait, quand les gens, ils disent, oui, l'intégration, mais en fait, en fait, il n'y a pas de... En fait, s'il y a un problème d'intégration, c'est que c'est toi qui accueilles pas l'autre, tu vois. S'il y a un problème avec l'intégration, c'est pas les gens, c'est pas qu'ils veulent pas vivre avec, tu vois, qu'ils veulent pas être aimés. Bien les sûr. Gens, ils veulent être aimés.
Tout le monde à peu près.
Tu vois, tout le monde veut être aimé, tu vois. C'est
ce qui, c'est même, je pense, c'est un des trucs qui nous relie tous en tant qu'être humain, même.
Donc en fait, s'il y a pas d'intégration, c'est que c'est toi qui l'aime pas, tu vois. C'est toi qui l'accueille pas, tu vois. Donc c'est ça qui est hyper dur, je pense. Et du coup, moi, j'ai grandi avec cette blessure hyper vicieuse et hyper douloureuse et hyper cruelle de pas être la Française à laquelle j'aspirais d'être, tu vois. Parce que je suis brune, que j'ai la peau un peu foncée, que tu vois, j'ai les yeux marrons, que j'ai un nez d'arabe, que j'ai des os d'arabe, que j'ai un corps d'arabe. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr. Hein.
Et ça, c'est hyper, hyper dur, hyper violent. D'autant plus qu'on est vachement invisible, en fait. Alors, un tout petit peu moins maintenant, mais même encore maintenant, tu vois, moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée à des soirées du milieu du jazz où j'étais la seule arabe dans la salle, ça m'arrive régulièrement encore, tu vois.
D'accord.
Je suis la première femme arabe à avoir gagné les victoires du jazz, tu vois. C'est triste, tu vois. Et des arabes qui ont gagné les victoires du jazz, il y en a, je crois qu'il y en a deux, en fait. Il y a Ibrahim Merlouf et moi.
C'est ce,
moi,
que, c'est
tu
ce
vois
que j'allais dire. Ouais.
Donc, c'est quand même triste parce qu'il n'y a pas que deux Arabes qui font, oui, de la musique, qui font du jazz en France.
Même
tu vois
si pour toi, c'est une victoire, là, c'est le cas de le dire, c'est une victoire en demi-teinte puisque tu aurais préféré ne pas être. C'est peut-être quelque chose sur lequel tu aurais préféré ne pas être pionnière non plus ou de te dire que.
Voilà, tu vois, et puis de ne pas sentir que. Ben, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué d'être un Arabe en France, c'est hyper compliqué de se construire dans ce regard qui. Tu vois, même le mot arabe, en fait, c'est un mot qui est hyper tabou, qui est hyper négatif, hyper connoté, hyper péjoratif. Tu vois, donc tu as l'arabe voleur, tu as l'arabe assassin, tu as l'arabe, tu vois, traître. Et puis, en fait, l'arabe, ben, c'est une civilisation immense. C'est grâce à la civilisation arabe qu'aujourd'hui, tu vois, on a eu accès aux textes d'Aristote et de Platon, tu vois. Les textes de la Grèce antique qui sont arrivés en Europe grâce aux traductions arabes. La première fois qu'un Français a lu Platon, c'était en arabe. Ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Je veux dire, c'est quand même monstrueux, tu vois.
C'est vrai, effectivement.
Comme on nous l'a fait à l'envers.
Oui.
Donc, voilà, il y a quand même... Il y avait cette douleur. Et du coup, je pense que de moi, de me retrouver à incarner cette figure de l'autre... Dans la société dans laquelle j'ai grandi, ça a eu un impact hyper fort sur ma relation à l'altérité, où je vais aller vers l'autre, où j'ai soif de l'autre et de ce qu'il peut me raconter.
Le métissage,
voilà.
La créolité, parfois on parle.
À fond. Ça, c'est hyper important.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
On parlait d'aller vers l'autre, d'altérité. C'est quelque chose... On parlait de... Ça rejoint ce qu'on disait sur l'aspect transcendant et cathartique de la musique. Toi, tu également... ta musique, tu la présentes et tu vas à la rencontre de ton public puisque tu fais également beaucoup de tournées. Pour toi, finalement, est-ce que la musique, j'allais dire, elle prend son sens, mais pas exactement ça, est-ce qu'elle prend un sens différent, est-ce qu'elle prend une dimension différente à partir du moment où elle va à la rencontre de son public en live et qu'elle est jouée sur scène?
Bah carrément. Bah, c'est-à-dire que si je faisais de la musique juste pour la jouer en studio de répète, ça serait vraiment dommage. Non, moi là où je me sens vraiment bien, c'est sur scène. Pour moi, ça prend vraiment du sens aussi parce que je peux partager ça avec les gens. Tu vois, si je pouvais le partager que avec des musiciens, bon, ça serait déjà chouette. Mais là où ça prend vraiment du sens, c'est quand tu es sur scène et que les gens, ça les bouleverse, ça leur fait du bien, qu'ils viennent te voir les larmes aux yeux et qu'ils te disent que ça les a bouleversés, que ça leur a fait du bien. Et que, tu vois, moi, c'est là où ça prend son sens, en fait, la musique. Tu vois.
Où l'émotion, elle est palpable.
À fond. Moi, je vais te dire, c'est pas compliqué depuis la sortie de l'album Usloub Hayati depuis 2015, donc c'est depuis 8 ans. Il n'y a pas un concert que j'ai fait où il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voir à la fin pour me dire qu'il avait pleuré pendant le concert. Donc en fait, et pleurer, c'est quoi pleurer? Pleurer, c'est pas être triste. Pleurer, c'est libérer quelque chose.
Bien sûr, ouais.
Pleurer, c'est libérer quelque chose. Et pour moi, ça, c'est hyper puissant. tu vois, que je puisse, avec ma musique, permettre aux gens de libérer des choses qui leur font mal, pour moi, c'est sublime. Et ça, c'est aussi un élément qui m'a menée justement vers ces rituels de guérison. Parce que ça me faisait réfléchir quand même. Je me disais, mais moi, j'ai pas beaucoup de potes dont, tu vois, à chaque concert, ils ont des gens du public qui viennent leur dire qu'ils ont pleuré, tu vois.
Oui, c'est quand même... C'est relativement rare quand même, c'est pas à chaque artiste.
Voilà, et ça c'est vraiment un truc que moi qui m'arrive à chaque concert. Et parfois pas qu'une seule personne. Et puis sûrement qu'il y a des gens qui pleurent et qui me le disent
oui,
pas
c'est
aussi,
ça que j'allais
tu vois,
dire
parce
aussi.
Que je rencontre pas tous les gens à la fin du concert, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, bon, il y a ça dans ma musique, il y a ce pouvoir de soulager, d'apaiser, de libérer, donc il faut que voilà, il faut que je pousse encore plus loin, il faut que j'essaye vraiment d'aller tu vois soulager les gens. On vit quand même une époque qui est hyper violente, tu vois. La vie a plus de sens. Tout ce qui fait sens, tout ce qu'on nous vend comme sens, c'est la consommation, c'est remplir ton caddie, c'est paraître, c'est hyper
superficiel,
c'est vachement dénué de profondeur, quoi. Et c'est hyper violent pour un être humain de se dire, bah, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Bah, ce que je veux accomplir dans ma vie, c'est, tu vois, avoir une maison, avoir une voiture. Tu vois, il y a des gens, c'est ça qu'ils Bien veulent sûr. Dans leur vie, parce que c'est ça qu'on leur vend comme rêve, c'est ça, on les baratine depuis qu'ils sont petits, que c'est ça la réussite et tout, mais c'est l'enfer.
Oui, bien sûr, si tu prends pas le temps de déconstruire ou de remettre ça en question, tu peux effectivement te conformer à ces...
Mais c'est flippant, et tu sais, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense, parce que nous, dans nos milieux artistiques,
oui,
c'est vrai
sûr.
Qu'on est quand même...
On est biaisés, sans doute.
Ouais. On est, tu vois,
enfin, je dis moi non, mais...
Ouais, on a plutôt, tu vois, des tu vois, on se pose un peu... Enfin, comme on a une pratique artistique, on a une vraie passion, on fait des trucs qui nous passionnent, donc on sait là où est la valeur de ce qu'on a envie de vivre, tu vois.
Ce qui t'éclaire un peu de l'intérieur. Ouais.
Voilà. Mais moi, je connais plein de gens, même des gens qui n'ont pas un rond, qui sont au RSA, et leur rêve dans la vie, c'est d'avoir une Tesla. Putain, mais t'as envie de dire, mais non, quoi. Enfin, non, en fait, c'est pas possible, tu vois.
Ouais.
Tu t'es fait carotte, tu vois. C'est pas ça qu'il te faut, en fait. C'est pas ça.
Et justement, toi, tu, à la fois pour toi ou pour ceux qui écoutent ta musique, la musique peut être aussi un vecteur de sens, de retrouver le sens, de renouer avec ça. Pour toi comme pour ceux qui t'écoutent.
Je pense.
Ouais. Pour toi, ça passe par là. Le sens que tu y trouves, c'est aussi beaucoup dans la musique.
Je pense, ouais. Je pense que les gens... Il renoue avec des choses qui sont beaucoup plus profondes, en fait. L'art, ça sert... Moi, je trouve que ça sert à ça. Enfin, si tant est que ça doit servir à quelque chose, mais en tout cas, je pense que l'art, ça... Après, il y a des formes d'art auxquelles tu es plus ou moins sensible, hein,
bien sûr.
Tu vois. Mais je pense que l'art, il a vraiment cette fonction de te faire renouer avec des choses profondes dans ton être, et notamment avec ta spiritualité, avec ton intimité, avec... Tu vois, il t'aide à penser tes blessures, il t'aide à te libérer de tes angoisses, il t'aide à comprendre des choses, à ressentir des choses. Tu vois, moi, quand tu as des gens qui me disent, voilà, même là encore ce week-end, ça m'est arrivé, il y a un gars, il arrive, il me dit, écoute, moi, je suis musicien, je suis clarinettiste, je connais bien la musique, j'ai jamais pleuré à un concert, et ben là, j'ai pleuré. Tu vois ?
Ouais.
Je me dis, bon, bah là, il y a...
Il y a quelque chose.
Tu vois, il y a quelque chose. Si ça l'a fait pleurer, c'est que ben la musique, elle est venue toucher une partie de lui qui avait besoin d'être lâchée. Tu vois, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important. Je pense que la musique, elle a une vraie profondeur et qu'il faut pas en avoir peur. Après, il y a plein de musiciens qui ont peur de cette profondeur aussi. Ouais. Tu vois, parce que déjà, est-ce que tu es prêt à partager autant d'intimité avec le public? Tu vois, c'est hyper intime, en fait, ce que tu partages quand tu fais le choix de pas te cacher derrière des phrases toutes faites.
Et justement, toi, tout personnellement, ça te fait pas peur, ça, de partager cette part d'intimité avec ton public?
Bah, en fait, c'est hyper bizarre parce que du coup, je passe pour quelqu'un d'hyper impudique, mais ce qui est pas le cas parce que je suis, par ailleurs, je suis hyper pudique. Mais non, en fait, je crois que j'ai pas le choix, en fait. Je crois que j'ai vraiment pas le choix. C'est-à-dire que moi, la musique, je pense qu'elle m'a sauvée à plein de moments dans ma vie, à plein d'endroits dans ma vie. Et je pense que si je suis saine d'esprit aujourd'hui, c'est parce que j'ai la musique. Tu vois ? Je pense que si j'avais pas la musique, j'aurais pété un câble.
D'accord.
Je pense que le monde est trop dur pour moi.
Mmh.
Et du coup, la musique, elle me sert vraiment à m'en sortir au quotidien.
D'exutoire ?
Ouais.
Ouais.
Et donc, du coup, je peux pas faire autrement. Tu vois ?
Ouais.
Je peux pas mentir, je peux pas me cacher derrière des phrases toutes faites. C'est soit je joue vraiment ce que j'ai à l'intérieur et ça me fait du bien et ça me permet d'avancer, de tenir debout. Soit j'ai pas ça et je sombre, tu vois. Mmh.
Oui, c'est aussi pour ça que tu souhaites aussi, comment dire, beaucoup donner en retour. C'est parce que peut-être que tu sais ce que ça a pu t'apporter à toi, donc de le donner aux autres aussi.
À fond, ouais.
Ouais.
À fond. Je sais que si ça me fait tellement de bien, ça peut que faire du bien aussi aux autres, en fait. Tu vois, c'est un truc. Tu vois, il y a plein de choses. Bon, alors, moi, je n'ai pas étudié la psychothérapie du tout. Tu vois, la psychanalyse ou la psychologie. Tu vois, je connais pas trop. Mais souvent, il y a des choses qu'on retrouve. Tu vois, il y a des comportements qu'on retrouve chez des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes parcours et tout. Il y a des choses... Tu vois, s'il y a de la médecine,
mmh.
s'il y a de la psychologie... S'il y a ces choses-là, c'est bien qu'on a des choses en commun,
bien
dans
sûr.
Nos corps, dans nos esprits, dans nos mécanismes, dans... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, s'il y a quelque chose qui me fait du bien à moi, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas du bien aux autres, mmh. tu vois ? Et donc, par exemple, ces rituels de guérison, moi, mon test, c'est moi. C'est moi le cobaye.
Si ça marche sur toi, tu vois, ça si peut ça marcher sur les autres.
Voilà.
Ouais.
Si ça marche sur moi, ça va forcément faire du bien aux autres mmh. aussi, tu vois ?
Ouais.
Dans une plus ou moins grande mesure. Tu vois, il y a des gens qui sortent des concerts qui n'ont pas pleuré, mais qui me disent « je me sens hyper bien, je suis hyper apaisée, ça m'a fait vachement
oui,
bien ».
Oui, tu parlais tout à l'heure de méditation. Ça peut, on peut être dans un exercice, dans un registre assez proche de celui de la méditation.
Voilà, ou de l'hypnose, mmh. tu vois, un truc où tu lâches prise en fait.
C'est ça aussi, ce que j'allais dire, c'est que ça passe beaucoup par le lâcher prise, puisque tu disais de révéler sa part d'intimité, ça demande aussi du lâcher prise. Tu parlais de comment la société fonctionne, où on nous demande beaucoup d'être dans le contrôle.
Voilà, mais même pour celui qui écoute, parce que du coup, si moi je suis sur scène et que je suis complètement dans le lâcher prise et ouais. que la personne qui est dans la salle, elle a rien à faire et en plus elle est dans le noir, bah t'imagines comment tu lâches prise.
Bien sûr.
T'es tout seul. Il y a des gens autour de toi.
Oui.
Donc tu partages cette énergie en commun en plus, mais en même temps, t'es dans le noir. Donc, tu peux chialer. Personne ne va le voir. Tu vois ce que je veux dire ?
Mmh.
C'est ça qui est hyper beau aussi. Tu vois,
ouais.
c'est que les gens, du coup, ils...
Laisser ils faire laissent... tomber certaines barrières.
Voilà.
Ou certains masques.
Ouais, ouais. Ça, c'est...
Et c'est aussi pour ça que finalement, tu tournes autant. C'est-à-dire que... Une fois que tu as pris goût, tu peux plus y renoncer.
Ouais, bon, je tourne autant aussi parce que j'ai la chance qu'il y ait des gens qui m'invitent.
Ça, c'est pratique.
Ça, c'est parce que c'est-à-dire que le jour où les gens vont arrêter de m'inviter, je vais être vraiment malheureuse. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient envie de me programmer, de faire et de partager ma musique avec le public qu'ils accueillent. Donc, ça, c'est déjà le premier truc. Et après, ouais, c'est clair que je refuse jamais un concert.
Mmh.
Je refuse jamais un concert. J'ai trop soif de partager ça avec les gens. J'ai trop soif d'entendre leur retour aussi. Tu vois, parce que moi, je donne, mais eux, ils donnent aussi.
Mmh.
Tu vois ?
Bien sûr.
C'est quelque chose qu'on partage ensemble.
Oui, justement. Surtout après, alors ça commence à s'éloigner doucement et heureusement maintenant, mais d'autant plus après être passé par cette période... De sociétés qui étaient très particuliers, où tous ces lieux-là, qui sont des lieux d'échange, de rencontres, les lieux culturels et les salles de concert étaient fermés. Donc, pour les musiciens comme pour le public, c'était un moment très difficile, puisque ce sont des lieux de rencontre, de transmission.
Ouais, et d'ailleurs, moi, je crois que c'est pas anodin du tout. Parce que tu vois, on nous a dit que la culture, c'était pas essentiel. Et moi, je trouve ça... vachement...
violent ?
Ah non, j'allais pas dire violent du tout, parce que de toute façon, cette société, elle est violente, le capitalisme, il est violent, enfin tu vois, on sait à qui on a affaire.
Mmh.
Mais pour moi, c'est un aveu hyper fort
mmh.
du capitalisme, de cette société libérale, tu vois, de consommation. Pour moi, c'est un aveu hyper fort, c'est-à-dire qu'en fait, dans les salles de concert, surtout les concerts assis, tu vois, pas les concerts debout, mais surtout les concerts assis. À un moment, on a fait des concerts où genre, tu vois, donc les activités avaient repris et tout, mais les salles de concert restaient fermées. Alors qu'on avait fait des concerts où il y avait un siège de libre entre chaque personne, plus les gens avaient leur masque et tout. Mais en fait, c'est là où moi, je trouve ça hyper, hyper fort comme aveu. C'est qu'en fait, même quand tu fais pas une musique qui est politique, à partir du moment où tu fais de la musique et qu'il y a des gens qui se retrouvent ensemble dans une énergie commune, dans un espèce de moment de communion, tu vois, hyper, hyper beau et hyper collectif, ça te fait renouer, ça te fait renouer avec l'autre, en fait. Ça te fait sortir de ton individualisme et ça te reconnecte à des choses qui sont beaucoup plus essentielles que de remplir ton cellier avec des pâtes et du PQ, tu vois. Et je pense que ça, c'est un aveu hyper fort de nos politiques, tu vois, de nos gouvernants sur la nature profonde et profondément, je pense, subversive de la pratique artistique. Et en tout cas, tu vois, j'ai plein de copains qui font de la musique, qui s'intéressent pas à la politique, qui font pas de la musique politisée, ils disent rien dans leurs concerts, ils font juste du divertissement. Mais rien que ça, en fait, de pouvoir être ensemble dans un espace,
l'idée que ça traduit,
et de vivre, et de vivre quelque chose en commun, dans une énergie commune, en fait, rien que ça, c'est déjà hyper subversif, en fait. Et ça, je trouvais ça assez ouf. Qui nous l'avoue comme ça, sans s'en rendre compte.
Tu vois, t'as pas étudié la psychologie, mais tu reviens quand même par des chemins détournés, puisque c'est vrai que c'est quand même, c'est ce que tu dis, c'était très fort quand même. Quels travailleurs sont essentiels, quels travailleurs ne le sont pas. Enfin, c'était très. Par ailleurs, quand tu n'es pas sur scène pour présenter ta musique et tes projets, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, tu composes également. Tu as composé la musique de plusieurs films, notamment des films documentaires, il me semble. Là, je me demandais comment est-ce que ça fonctionne finalement, puisque tu arrives, tu parlais de certaines choses que tu avais composées, certains de tes projets. Là, tu arrives, il y a une œuvre artistique qui arrive déjà, à laquelle on te demande de contribuer. Comment tu appréhendes tout ça?
Alors, pour le cinéma, ça dépend. Alors, c'est-à-dire, il y a des films qui vont choisir des répertoires qui existent déjà. Donc, tu vois, ils vont aller puiser dans la musique que j'ai déjà composée, d'accord, qui est déjà enregistrée, qui est déjà sortie, pour l'utiliser pour ce qu'on appelle de la synchro, c'est-à-dire qu'ils vont
mettre du son sur de l'image.
Voilà, mettre ma musique sur leur film parce qu'en fait, ils trouvent que ma musique va bien avec leur film. Et donc, voilà, c'est fait. Et parfois, il y a des commandes. Alors, je peux avoir des commandes, comme par exemple, tu sais, la commande pour l'orchestre symphonique, c'était une commande.
Tout à fait.
Je peux avoir des commandes. Là, j'ai une commande pour un quatuor à cordes, donc j'écris pour ça. Et pour les films. Et alors, pour les films, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, les réalisateurs, ils ont écouté mon travail, ils aiment ma musique, et ils me disent, voilà, je voudrais un truc qui ressemble à ça, à quelque chose que tu as déjà fait, tu vois. Donc, ils vont me faire écouter, ils me disent, ce morceau-là, c'est super. Souvent, ils ont déjà mis ma musique sur leur image, ils trouvent que ça colle parfaitement. Et donc, ils veulent un truc dans cet esprit-là, tu vois.
Bien sûr.
Donc, il y a cette possibilité-là. Ou parfois, là, pour le dernier film que j'ai fait, elle avait déjà mis des musiques instrumentales qu'elle avait trouvées sur Internet sur son film. Et elle me disait, voilà, je veux un truc un peu dans cette veine-là. Tu vois ? Donc, en fait, c'était pas... Elle me donne déjà des pistes, en fait, sur ce qu'elle...
Des indications.
Sur ce qu'elle entend, en fait, sur ce qu'elle pense coller avec son... avec l'ambiance qu'elle veut dans sa scène, tu vois ? Voilà. Et parfois, elle a aucune idée, et elle me dit, bah, vas-y, propose-moi des trucs, et je propose des trucs. Enfin, tu vois, voilà. En fait, c'est un travail qui se fait beaucoup avec le réalisateur.
Ok. C'est aussi une histoire de rencontre, en fait. Donc,
c'est une histoire de rencontre, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, les réalisateurs, si tu veux, de la musique, il y en a beaucoup. C'est pas comme s'ils manquaient de musique. Donc s'ils ont envie que ce soit moi, c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon travail qui les a touchés et qui fait sens par rapport à eux. Ce qui... Tu vois, par exemple, j'ai fait la musique du film de Manon Loiseau qui s'appelle Siri, le cri étouffé. Oui. Bon, elle avait envie de travailler avec moi parce qu'elle aimait ma musique, mais aussi parce que c'était un film qu'elle faisait sur la... Bon, c'était d'entretien avec des femmes qui ont subi des viols dans les prisons du régime syrien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a utilisé le viol comme arme de torture à grande échelle.
Arme de guerre, oui.
Ouais, comme arme de guerre. Donc, donc elle avait envie de travailler aussi avec quelqu'un qui se sent particulièrement concerné.
Mmh. Oui, puisque tu disais, tu avais déjà fait toi un album qui était aussi...
Moi, j'avais fait un album en hommage à la Révolution syrienne et aux martyrs de la Révolution syrienne. Elle avait entendu, je suis d'origine syrienne, je me suis beaucoup investie dans cette révolution en France pour essayer de faire entendre aux gens ce qui est en train de se passer en Syrie et de faire entendre la voix un peu de ce qui se passait, tu vois, des gens qui voulaient vivre libre et digne. Bon, ça n'a pas marché, de fait. Ça fait 12 ans que ça dure. Mais en tout cas, voilà, je me sentais vraiment concernée. Tu vois, donc elle ne m'a pas choisie par hasard. Elle m'a choisie parce qu'elle sait que ça signifie...
Une question de sensibilité aussi.
Voilà, elle sait que ça signifie quelque chose. Pareil, bon, tu vois, Halal Abdallah, donc j'ai fait la musique pour son film Farou, un assiégé comme moi. C'est un film... Elle m'a pas demandé d'écrire de la musique pour son film. Par contre, elle a été puisée dans mes albums,
dans ton répertoire, ouais.
Dans mon répertoire, parce que ça faisait sens pour elle, parce que tous les personnages qui étaient dans son film, qui est un film documentaire, c'est des gens que je connais, donc on fait partie de la même bande de gens. Tu vois, on s'est battu pour la révolution syrienne aussi. On a fait des manifestations ensemble, on a organisé des événements pour. Sensibiliser l'opinion publique en France aux questions qui nous concernaient, tout ça. Donc, tu vois, c'est des choses, à chaque fois, c'est des choses qui font sens, en fait. Ils font pas appel à moi parce que, je sais pas, moi, je suis Michel Legrand et que je fais de la musique à l'image, à la chaîne, et que je fais des chansons, tu vois. Ils font appel à moi parce qu'il y a une histoire humaine, qui a un propos, qui a des valeurs en commun, qui a, tu vois. Donc, c'est pas... Évidemment que c'est musical, parce que si ma musique ne leur plaisait pas, ils ne m'appelleraient pas.
Mais ils y lisent sans doute quelque chose qui leur parle au-delà de l'aspect purement musical.
Voilà.
Et alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels, que ce soit en studio ou sur scène ?
Alors, j'ai un album qui sort le 31 mars qui s'appelle Healing Rituals.
Ok.
Voilà. C'est mon 9e album. Donc, j'ai hâte. J'ai très très hâte que tout le monde l'entende et qu'on me dise que ça fait du bien ou pas, ou voilà. J'ai vraiment hâte. Il y a un concert, un showcase qui va avoir lieu à Paris pour présenter un peu cet album sur scène le 8 juin au Café de la Danse.
D'accord.
Donc voilà, c'est... J'invite tous les auditeurs à venir à acheter leur place. On a fait des tarifs pas trop chers.
Dans une très belle salle en plus.
Ouais, on a fait des tarifs pas trop chers parce que c'est vrai que normalement les concerts là-bas c'est plutôt 25-30 balles l'entrée. Donc nous on a fait je crois 15 et 20, donc c'est un peu moins cher.
Mm-hmm.
Et donc j'invite les gens à prendre leur place, à écouter l'album et voilà. Ça c'est un peu ce qui se passe. Après, ce qui se passe par ailleurs, c'est que je suis très très inspirée par la musique indienne depuis 20 ans. Que j'écoute ça tous les jours, au moins, voire plusieurs fois par jour. J'aime beaucoup la musique indienne, ça me fait beaucoup de bien. Et je prépare un projet autour de la musique indienne pour 2024.
D'accord. Voilà. Avec des musiciens avec qui tu n'as jamais travaillé pour l'instant ? Ce sera dans un nouveau groupe ou...
Ouais, ça sera une nouvelle formation.
D'accord.
Dans laquelle il y aura des musiciens indiens, enfin en tout cas des musiciens qui vivent en Inde et des musiciens qui vivent en France.
D'accord.
Et voilà.
On a hâte. Alors, on arrive malheureusement au terme, bientôt en tout cas, au terme de l'émission. Je vais te poser la question que je pose à tous et à toutes mes invités. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, avec notre audience, une œuvre culturelle qui te tient particulièrement à cœur ? Alors, avant qu'on débute l'émission, tu me disais que c'était ce que ça avait de peut-être d'arbitraire pour toi, ce que ça avait de ne choisir qu'une seule œuvre, mais malheureusement, c'est la règle du jeu. Il n'en restera qu'un.
Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas très connu. Et je pense que c'est un livre que les gens mériteraient. En tout cas, c'est un livre qui mérite d'être découvert et que les gens, je pense, ça leur ferait comprendre pas mal de choses de lire ce livre. Donc j'avais envie d'en parler, en fait. C'est plus un. Voilà. Ça s'appelle La Porte du Soleil de Elias Rouri, qui est un auteur libanais. Donc c'est un livre qui a été écrit en langue arabe et qui est traduit en français, qu'on peut trouver aux éditions Actes Sud. Sinbad, il me semble que c'est Sinbad qui a... Il me semble, je ne suis pas sûre. Et c'est un livre hyper, hyper beau, c'est un roman qui raconte l'histoire de la lutte du peuple palestinien. Donc ça commence, je crois, juste avant la Nakba. Et ça se passe pendant la guerre civile au Liban. Il me semble que les massacres de Sabra et Shatila ont déjà eu lieu en 1982. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, si tu veux. Mais je pense que c'est un des romans les plus oufs que j'ai lus dans ma vie. Voilà.
Bon. C'est pas mal.
Voilà. Après, évidemment, il y a les frères Karamazov, il y a des grandes œuvres incroyables.
Non, mais, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on les connaît plus. Donc, je me suis dit, plutôt que de parler des frères Karamazov que tout le monde a lu, qui est un livre qui m'a vraiment retourné la tête, je me suis dit, je vais parler de la Porte du Soleil parce que c'est sublime, l'écriture est hyper belle, les histoires des gens sont hyper, hyper, hyper belles. C'est des histoires des Palestiniens, de leur lutte pour la dignité, de leur dignité aussi, parce que c'est vrai que c'est un peuple qui n'a plus rien d'autre que la dignité, en fait. Hein. Mmh. Donc c'est un peuple qui a beaucoup de dignité, du coup, parce qu'il n'a que ça. Et ça, c'est sublime. Et donc voilà, c'est un livre que j'invite tout le monde à lire s'ils ont envie.
La Porte du Soleil. Donc.
La Porte du
Et
Soleil.
L'auteur, tu dis, c'est
Elias Rouri.
Ok.
Alors en français, ça veut dire Elias Kouri.
D'accord.
Rouri.
Très bien. Naysam Jalal, merci beaucoup d'être venu avec nous pour parler de musique. Mais on a parlé de plein de choses, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est de partir de la musique pour parler de soi, pour parler des autres, pour aller vers les autres. Merci beaucoup d'être venu passer une heure avec nous. Et donc, rendez-vous tous et toutes au Café de la Danse le 8 juin. Bonne soirée.